ce bistrot, votre bistrot, le bistrot du vélo, nouveau numéro, nouvelle saison et toujours un menu que l'on découvre tout de suite ensemble, des entrées du soleil pour commencer, direction Paris-Nice. Ensuite, il sera temps de parler de notre invité du jour. Nous aurons des jarrets, de beaux jarrets de Mont-Saint-Aignan, de jarrets normands qui évoluent dans une équipe bretonne. Tiens, tiens, qui est-ce? Réponse dans quelques secondes. Et le dessert, semi-fredo de l'Adriatique aujourd'hui. Début de Tirreno-Adriatico en même temps que Paris-Nice. Tout ça, c'est à suivre bien sûr sur nos antennes. Bistro Vélo, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur le.fr, sur l'application Facebook, en direct. Elle est là. Vous pouvez poser vos questions. Vous êtes déjà plus d'une centaine dans le bistrot. Et puis sur nos applications, bien entendu. Qui est notre invité du jour? Il était encore avec un cuissard. 2h30, il a protégé Nairo Quintana dans le final de la deuxième étape de Paris-Nice, une étape très vantée qui arrivait à Orléans, la ville de Pierre Roland. Rien à voir, notre invité, c'est lui. Bonjour Mathis Louvel, vous êtes en direct de l'hôtel de l'équipe Arkea Samsic. Bienvenue dans le bistrot du vélo, bienvenue dans le monde pro. On va parler de vous, bien entendu. Juste un premier mot, premier Paris-Nice, ça fait quoi?
Ah, ça fait plaisir, hein. C'est une course que j'ai eu l'habitude de regarder étant petit, donc c'est vrai que on sent que c'est une course particulière et c'est un cran au-dessus de tout ce que j'ai pu faire encore par le passé.
On a une petite fiche de présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors il y a peut-être des erreurs, hein. Vous me reprenez en même temps, on découvre, né le 19 juillet 99 à Mont-Saint-Aignan, ça j'ai bon?
C'est ça.
Mont-Saint-Aignan, un pur normand, une victoire professionnelle, c'était l'année dernière, c'était la Vuelta de Castille-León, une étape sur la Ronde de l'Isard en 2019, ce qui vous a révélé, hein, c'est un passage obligatoire chez les jeunes, et puis cette année, on vous a vu échapper notamment sur le Het Nieuwsblad, vous êtes allé chercher une 14e place. Comment s'est passée la journée aujourd'hui? Encore une étape complètement dingue, une étape devant, on est passé par Angerville, je ne sais pas si vous le savez, c'est chez Tony Galopin, il avait de la chance, Tony n'était pas dans le peloton aujourd'hui.
C'était une journée stressante pour tout le monde était vraiment à cran sur le vélo dès le début de l'étape, on sentait que c'était vraiment nerveux dans le peloton et tout le monde s'attendait au même scénario, et quand ça a mis en route, après ça a plus débranché jusqu'à l'arrivée. C'était rapide et fatigant, on était content de passer la ligne avec Nairo qui perd pas de temps, donc c'était une bonne journée pour nous.
On revoit les images de l'arrivée avec la victoire de Fabio Jakobsen, sa 6e victoire de la saison et encore un numéro hein, des Jumbo-Visma, la 2e place pour Wout van Aert, la 3e pour Christophe Laporte. Et vous êtes là, juste au cul. Hein. Y en a beaucoup qui ont perdu gros aujourd'hui. Hein. David Gaudu a terminé à presque 9 minutes. Qu'est-ce qu'on apprend d'un Nairo Quintana qu'on vient frotter comme ça? Il parle beaucoup, on l'a vu communiquer avec vous pendant l'étape, aujourd'hui et hier d'ailleurs, Nairo Mathis.
Ouais, il essaie de nous guider au maximum sur ses attentes. On sait que Paris-Nice, ça peut se perdre, ça peut pas se gagner dans les premières étapes, mais ça peut se perdre. Donc nous, pour nous, l'objectif, c'est de perdre le moins de temps possible par rapport aux autres favoris. Et moi, mon rôle, c'est surtout sur les premières étapes. Donc il parle beaucoup, il essaie de nous guider au maximum. Et c'est toujours plus motivant quand on a un coureur comme Nairo Quintana qui nous guide. Et c'est assez impressionnant quand même. Et c'est assez compliqué de le suivre dans le peloton parfois, tellement il se faufile.
Il frotte, hein. À Nairo, on n'a pas. Vous êtes un spécialiste des courses belges, on y viendra tout à l'heure, vous habitez Liège. On commentait tout à l'heure avec Jackie, c'est un Flandrien, Nairo. Hein. Il est toujours bien placé, et on l'avait vu déjà l'année dernière.
Ah, Nairo, il est vraiment impressionnant, il ne se laisse pas faire, même face à un gars de 80 kilos, il va lui mettre un coup de coude, il ne va pas se laisser bouger. Hein. C'est Nairo, il est comme ça, il est concentré sur son objectif et il lâche rien.
Eh bien, on va l'écouter, Nairo Quintana. Il revient sur l'étape. C'était tout de suite à la sortie du bus. Il était sur les rouleaux. Une interview signée Fred Machabert. Comme nous l'avions prévu, la journée d'aujourd'hui fut une étape avec beaucoup de vent et de nervosité. Il a fallu rester bien placé dans le peloton, tout le temps avec l'équipe. Et finalement, nous sommes arrivés à rester dans le groupe principal comme nous l'avions prévu. Bien sûr, demain sera un autre jour, il faudra rester bien concentré en attendant le chrono et la montagne. Il veut remporter Paris-Nice, c'est pas un secret, bien sûr il y a Primoz Roglic, mais je crois que toute l'équipe est vraiment focus sur cet objectif, le podium, voire plus, il y a affinité.
Oui, c'est un objectif depuis le début de saison de Nairo, son premier gros objectif de la saison. C'est un objectif de l'équipe aussi. Pour la course au World Tour, il y a de gros points à marquer, donc il ne faut vraiment pas se rater. Il est très en forme depuis le début de saison et pour l'instant, on a échappé à tous les problèmes, donc on est sur la bonne voie.
Les autres, ils sont comment dans l'équipe? Il y a eu de la casse aujourd'hui, beaucoup de chutes. Tu as eu le temps peut-être, après le massage, de croiser les copains. On fait le point des bobos le soir souvent à l'hôtel.
Ah, nous, on a eu de la chance. Personne n'a été pris dans les chutes, gêné, mais personne n'est tombé. Donc, on est tous entiers et tous en pleine forme.
Est-ce que tu as eu le temps de parler avec Christophe Laporte? Parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu un Français leader sur le World Tour. J'imagine qu'on se félicite. En plus, vous étiez ensemble dans le groupe, là. Il y a pas mal de Belges, mais il y avait deux, trois Français aussi.
J'ai pas trop eu le temps de parler aujourd'hui. J'étais un peu à fond quand même, donc j'ai pas pu aller le féliciter.
On va l'écouter, Christophe Laporte, maillot jaune, encore aujourd'hui, la deuxième place. Ça a changé, hein. C'est Wout van Aert qui est deuxième, Roglic troisième.
Ouais, une journée très nerveuse. Moi, j'ai pas trop pensé au maillot jaune, j'ai pas trop eu le temps d'y penser. Et voilà, je me rendais pas trop compte, nos manchettes sont jaunes tout le temps, donc là, elles étaient encore jaunes aujourd'hui, donc je le voyais pas trop, je vais le voir sur les photos ce soir, mais j'ai surtout pensé à rester à l'avant avec l'équipe, à garder Primoz à l'avant, Wout aussi pour le sprint. Je pense qu'on a fait une belle journée avec l'équipe, on a eu quelques chutes, Wout est tombé, je crois que Steven aussi. Mais voilà, dans l'ensemble, on a atteint un objectif qui était de garder Primoz avec le meilleur général. On passe pas loin de la victoire, mais je pense que le plus rapide a gagné aujourd'hui. Et voilà.
Ouais, on le verra encore demain sur les antennes d'Eurosport. On va revoir cette image dingue, hein. Un triplé hier à l'arrivée. Et puis le petit cadeau au genou de l'équipe. Vous en avez pensé quoi de ce triplé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un grand coup d'accélération. Ils nous ont dit on n'avait rien calculé. Vous, vous étiez juste derrière. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit Van Aert, Roglic et Laporte partir tout seul?
Moi, je m'étais déjà écarté avant. J'avais replacé Nairo à 10 bandes de l'arrivée et je me suis écarté, mais j'ai revu les images en montant dans le bus. Et c'est impressionnant. Hein. Ils étaient une jambe au-dessus de tout le monde. C'était une bonne stratégie, c'est sûr, mais c'est surtout qu'ils étaient plus forts que tout le monde hier. Ils ont vraiment une très grosse équipe et c'est impressionnant.
Trop d'efforts pour vous, étonnant de voir Roglic comme ça à l'œuvre tous les jours. On l'attend plutôt dans 2 jours avec le chrono, et puis après terminer le travail dans le col d'Aise, dans le col de Turini. Non, on en veut tous les jours, on joue sur tous les profils finalement.
Ouais, après, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est toujours mieux d'avoir un peu d'avance. On ne sait jamais ce qui peut se passer, une crevaison, une chute. Je pense qu'ils veulent assurer le coup et ils sont sûrs de leur force.
On prendra vos questions, hein, dans quelques instants à Mathis. Vous êtes déjà très nombreux. Il y a Laurent qui est là, il y a Bruno, Nathalie. On dit vive Mathis, vive la Normandie. Ça vous tient à cœur cette Normandie? Tiens, une petite question. J'ai appelé Alexis Goujard. J'ai dit tiens, Alexis, parce qu'en fait Alexis, il est passé au bus d'Arcueil. Il dit là, vous en avez un bon en bon normand, c'est Mathis. Puis il m'a dit non, en fait, je ne le connais pas bien. Son papa, je crois, Jean-Pierre le papa, c'est ça? Non, ton père à toi.
À mon père Thierry.
Thierry, pardon, Thierry a entraîné Alexis dans les sélections de jeunes en Normandie.
C'est ça, il l'a eu en sélection. Mon père était pas mal impliqué dans le vélo en Normandie, donc il l'a eu en sélection chez les juniors ou les espoirs, je crois. Et il a gardé des bons liens avec lui.
Thierry, mais pas que, ton père, mais pas mal de monde dans la famille Louvel fait du vélo, d'après ce que j'ai compris.
La famille Louvel, c'est moi. Il y a beaucoup de Louvel qui sont pas forcément de ma famille, mais dans ma famille, du côté de mon père, tout le monde est passionné de vélo et ça. J'ai nagé dans le vélo depuis mon enfance, oui.
Nager dans le vélo et l'objectif, alors qu'on voit des belles images encore, ça c'était aujourd'hui avec Mathis Louvel en tête dans ce premier groupe qui protège Nairo Quintana. On va avancer un petit peu quand même. Tu habites Liège, Mathis, tu as ch choisi de choisir ta dulcinée qui fait ses études, des études de kiné. Et je crois que tu aimes, on l'a vu sur le Het, hein, tu aimes ces courses flamandes.
Ouais, c'est des courses qui me correspondent bien. J'ai quand même un gabarit typé pour ces courses qui m'aide à pas mal frotter. J'arrive à être bien explosif dans les côtes assez courtes. Et j'aime bien les pavés et toutes ces courses où il faut vraiment s'accrocher jusqu'à la fin. Et c'est aussi une ambiance et une atmosphère particulière et une atmosphère que j'aime bien. Ouais.
L'objectif, comme ça, le rêve, si tu devais en gagner qu'une, ça c'est une question du questionnaire Bistro Vélo, mais je l'ai enlevé, donc je te la pose là. Si tu veux gagner une seule course,
Paris-Roubaix.
Paris-Roubaix.
Ouais, c'est la course de mes rêves depuis que je suis petit. Bah, j'habite pas très très loin de Roubaix, donc j'ai eu la chance de la faire en école de vélo chez les jeunes et d'aller voir les pros aussi quand j'étais plus jeune. Donc c'est vraiment une course qui me tient à cœur.
Avec une petite inversion, ça sera le 17 avril cette année, Paris-Roubaix, pas le 10, parce que le 10, il y aura une petite élection présidentielle en France. Est-ce que tu y seras de cette équipe Arkéa? Parce que là aussi, on a des gars solides. Je pense à un Connor Swift, par exemple, vainqueur l'année dernière du Trobro, mais pas que.
Ouais, bah, pour l'instant, je suis dans l'équipe et j'espère, normalement, j'y serai. Si j'ai pas de problème d'ici là, je serai au départ.
On va écouter ton directeur sportif. Ses copains l'appellent Vonvon, je pense que vous l'appelez encore Yvon. Vous ne faites pas encore partie des compains. Yvon, le Danois, qui nous parle de Mathis Louvel.
Mathis a démontré depuis maintenant qu'il est dans l'équipe qu'il a franchi des paliers. C'est important pour nous de pouvoir le voir en activité sur une course World Tour comme Paris-Nice. C'est un garçon qui a des qualités, d'énormes qualités, dont on a besoin sur ce Paris-Nice justement. Donc pour moi, c'est important de voir sa marge de progression en vue d'échelons supérieurs dans l'équipe. Et je pense qu'il a vraiment pris ses marques et il va apporter beaucoup, et notamment sur ses trois premières journées sur Paris-Nice, mais pas que.
Il a franchi des paliers, on a envie de le voir au plus haut niveau, en World Tour, de le comparer aux autres. Toi, après ces deux premières journées au très haut niveau, tu as déjà évolué au très haut niveau, mais là, Paris-Nice, c'est une course à étapes, il y a beaucoup de tension. Ça te donne confiance, ces deux premières journées, sur ton potentiel?
Bah, hier, j'avais un peu peur quand même. J'ai passé la ligne. J'étais fatigué mentalement et je me suis vraiment accroché pour aider au maximum. Et je me suis dit, ah oui, c'est encore un autre cran et il y a encore du travail. Et bon, aujourd'hui, ça me conforte quand même dans l'idée que j'ai bien progressé depuis mes débuts chez les professionnels. Et je suis optimiste pour la suite, on va dire.
Est-ce que le soir, quand on rentre à la chambre, là, on pense déjà à demain? Je me mets à ta place, hein, moi. Je m'appelle Mathis Louvel, je veux être un grand pro. J'ai Nairo Quintana dans mon équipe. Il compte sur moi tous les jours. Il comptera sur moi demain. Est-ce qu'on y pense à ça, l'envie de ne pas décevoir? Puis c'est un saut vers l'inconnu. C'est-à-dire que tu as envie de bien faire, mais peut-être qu'à un moment donné, les gens, bah, elles vont dire bah, je voudrais bien, mais je peux point, quoi.
Bah oui, c'est sûr. On pense toujours au lendemain pour la récup. Dès qu'on monte dans le bus, on pense à l'étape du lendemain. Une course d'une semaine, c'est très dur et la récup, ça joue beaucoup. Donc, je pense toujours aux étapes qui arrivent et c'est sûr qu'avoir Neiro, ça motive pour bien faire le travail et bien faire le job à côté. Et après, si j'ai pas les jambes une journée, bah, j'ai pas les jambes, c'est comme ça, je les aurai le lendemain.
On a titré la deuxième partie un Normand chez les Bretons. Qu'est-ce que tu fous chez des Bretons? Il faut que tu nous expliques, Mathis. Comment t'es arrivé chez Manu Lubert qui nous écoute et que l'on embrasse? Il a un petit problème de dos, ça va mieux pour Manu, le manager de l'équipe Arkéa Samsic.
Bah, malheureusement, en Normandie, il n'y a pas d'équipe professionnelle. Donc, je me suis un peu délocalisé chez les Bretons, mais c'est plus les Bretons qui ont des problèmes avec les Normands. Moi, je suis safe avec ça. Et
Vous êtes
voilà.
tranquille, hein, de toutes les façons, vous avez le Mont-Saint-Michel, c'est normand.
C'est ça. Mais c'est une très bonne équipe. Je suis vraiment très content d'avoir commencé ma carrière ici et j'ai été tout de suite très bien intégré. Je suis vraiment satisfait. J'ai eu la chance de. Manu m'a fait confiance alors que j'étais encore assez jeune et c'est bien pour progresser. On progresse vraiment plus vite chez les professionnels, donc c'est bien.
Qui est venu te chercher? Qui t'a contacté? Parce que tu es passé stagiaire également chez la Groupama FDJ.
Ouais, de base j'étais suivi à la FDJ et après. Enfin, j'avais pas eu de proposition de la part de la FDJ et j'avais mon manager quand j'étais à Rouen, Jean-Philippe Pion, qui a pas mal de contacts chez les professionnels et qui s'entend bien avec Manu, qui l'a contacté plusieurs fois. Et un jour, Manu a fini par dire oui, donc ça s'est passé comme ça.
Et il me dit c'est un super. Il m'a dit tu verras, c'est un super. On a quelques photos et également à montrer de Mathis Louvel, histoire que vous vous familiarisez avec ce nouveau visage. Alors tu vis en Belgique, alors on a parlé du choix. Stratégiquement, ça t'apporte quoi de vivre à Liège, le pays de la gaufre?
Le soleil, c'est sûr. Mais il y a des belles petites côtes pour travailler quand même. Après, je vais pas rester là-bas toute ma vie, c'est sûr. Mais c'est un bon terrain d'entraînement. On peut faire du plat, on peut monter des belles bosses. Puis je peux reconnaître Liège-Bastogne-Liège aussi. Donc c'est pas
ça,
mal.
Ça fait partie aussi des objectifs. L'avantage, alors qu'on te voit là sur Strade Bianche, ça c'était l'année dernière. L'avantage, c'est que cette année, vous avez le choix. Vous avez même refusé l'invitation sur le Giro. Paris-Roubaix et en plus, peut-être des Ardennaises avant.
Pour l'instant, je suis prévu sur Liège aussi, mais pas plus. Après, je vais faire le Tour des Flandres aussi en grande classique. Donc, j'ai un gros programme qui m'attend après Paris-Nice. Et après Liège, je soufflerai un peu pour attaquer la suite de la saison derrière.
Vous êtes plus de 200 dans le bistrot, à mon avis. Il y a les copains normands qui regardent. On nous dit, Bruno, quelle progression. Mathis, bravo et vive la Normandie. Frédéric nous dit, classique ou épreuve? Par étape, je crois qu'on a compris. Hein. Plutôt les classiques dans un premier temps. Et puis, il y a Eddy qui nous dit, le Tour de France. Est-ce qu'on y pense au Tour de France? Forcément.
On y pense forcément. Hein. On fait du vélo aussi pour faire le Tour de France, surtout en tant que Français. C'est la plus grande course du monde. Après, c'est sûr, si on me dit, écoute, Mathis, on te prend pour le tour, je dirais pas non, hein, mais c'est encore, ça me paraît encore un peu loin dans ma tête, même si j'espère le faire rapidement, mais je pense que j'ai encore des paliers à franchir et il faut encore que je progresse un petit peu.
Oui, pas se griller les ailes. Attention, petit conseil comme ça, c'est vrai que. Ça va très vite, on voit de très très jeunes devant, mais ils ont des moteurs énormes et on verra. D'ailleurs, si les très très jeunes qui ont des moteurs énormes n'arrivent pas à se dégoûter très rapidement, ça peut arriver. On va passer au moment du questionnaire. Alors je vais mettre ça. Ouais, toi t'es jeune, nous on vieillit. Donc maintenant pour voir de près, eh ben, il faut des lunettes. Le questionnaire Bistro Vélo de Mathis Louvel. Ton meilleur pote dans le peloton, Mathis?
Il était dans le peloton, maintenant il n'est plus dans le peloton, il a arrêté le vélo. C'était Théo Nonez, que j'ai rencontré chez les jeunes en junior, en sélection en équipe de France. Et un très bon ami.
Qui était à la Conti FDJ, qui est même venu commenter à Eurosport. Théo, on le salue, c'est un gros fan de vélo. Théo, il a une vraie culture vélo. Tu as la même si c'est son pote?
Un petit peu, ouais, on a un peu la même culture vélo.
Ton meilleur souvenir sur le vélo?
Ah, j'en ai plusieurs, hein, mais peut-être ma victoire à la Ronde de l'Isard.
C'est ce qui te permet d'accéder au monde professionnel, tu penses?
C'est pas forcément cette victoire-là, mais c'est sûr que ça a ouvert pas mal de portes et les managers d'équipe m'ont peut-être regardé d'un autre œil. Et pour moi, c'était important, c'était une course que j'avais cochée, plus pour le général, et j'avais eu un peu des... j'avais eu une journée sans, donc le général s'était foutu et j'ai tenté l'échapper. Finalement, j'ai réussi à aller chercher la victoire au bout. Donc, c'était un bon souvenir, un très bon souvenir.
Bon, là, la question, la réponse, elle est simple. Hein. Ton dernier coup de pédale?
Il y a 2 heures.
Il y a 2 heures. Il n'y a pas eu de rouleau après?
Si, un petit peu quand même.
Donc, ton dernier coup de pédale, c'était sur les rouleaux?
C'est ça.
C'est comme ça. Ton idole de jeunesse?
Moi, quand j'étais jeune, c'était le duel Andy Schleck-Alberto Contador. Et je penchais plus pour Andy Schleck, c'était vraiment mon idole.
Pourquoi? Pourquoi plus Andy qu'Alberto?
Je sais
le côté
pas.
Luxembourgeois-Belgique, plus que le côté latin?
J'étais pas vraiment belge à l'époque, mais il gagnait peut-être un peu moins, et c'est pour ça que j'avais envie de le voir plus gagner.
Andy Schleck, deuxième de Paris-Nice, si je ne dis pas de bêtises, derrière Luis Leon Sanchez, ça devait être il y a 13 ans, 2009, imagine. Ton pire souvenir dans le vélo, Mathis Louvel?
Mon pire souvenir, j'en ai un petit peu, des journées galères. Je me souviens quand j'étais espoir 1 sur le circuit des Ardennes.
Course difficile.
4 jours en classe 2, ma première classe 2 par étape. Et tous les jours un enfer, tous les jours à me battre pour finir dans les délais. Et là, je me suis demandé si j'étais fait pour faire du vélo et j'ai persisté et finalement, ça a bien progressé, donc ça va.
C'est intéressant de voir que ton pire souvenir, finalement, c'était chez les jeunes. Depuis que tu es chez les pros, il y a moins de pires souvenirs ou il y en a d'autres? Ton pire souvenir chez les pros, il y en a eu?
Chez les pros, c'est différent. J'ai pas eu trop de journées galères encore. quand on parle un peu avec les anciens, ils nous racontent des journées sous une météo exécrable, sous la neige, avec des températures horribles. Moi, je n'ai pas encore connu ça, donc j'espère que ça n'arrivera pas trop vite. Mais
bah écoute, tu veux que je te dise quelque chose? Aujourd'hui, à mon avis, sur le vélo, il y en a qui ont connu une vraie journée galère. Toi, tu étais devant. Mais aujourd'hui, c'était une vraie journée galère, hein, sans plus.
Ouais, c'est sûr.
Voilà pour le questionnaire Bistro Vélo de Mathis Louvel. Mathis, on va passer à nos classements. Vous allez voir, c'est bien, parce que ça va nous permettre de parler de l'équipe Arkéa. L'équipe Arkéa qui est bien placée avec 5 victoires. Alors, actualiser ce classement avec la victoire de Fabio Jakobsen, hein, monsieur 50% chez Quickstep, 6 victoires pour lui et puis une victoire aussi pour Filippo Ganna, la 8e de l'équipe Ineos Grenadier. Et puis notre France au maître, on va voir que l'équipe Arkéa est loin devant, hein, avec 5 victoires, mais surtout, on les a pas mis, mais énormément de podiums, 4 victoires pour la Cofidis avec Brian Cocard et Benjamin Thomas, Total Energy qui a beaucoup gagné au Rwanda, une étape également au Rwanda pour la BNB Hotel, et puis David Godu, une victoire aussi depuis le début de la saison, à noter, toujours pas de victoire pour l'équipe AG2R Citroën. Arkéa, le but, c'est bien d'être World Tour l'année prochaine. Il faut expliquer, hein, les 3 dernières saisons vont être comptabilisées. On va ajouter les points UCI et les premières équipes de ce classement, les 18 premières, auront leur ticket World Tour pour les 3 prochaines saisons. Pour l'instant, ça se passe très bien. Vous avez même occupé, hein, cette année la première place du classement UCI. Là, vous vous battez avec les meilleures équipes. On parle que de ça. On parle que de ça dans l'équipe.
On ne parle pas que de ça, mais c'est sûr que c'est un sujet très important. C'est l'objectif principal de l'équipe depuis les 2 dernières saisons, avoir la licence World Tour. C'est un bel objectif pour tout le monde et ça tire tout le monde vers le haut. Et bah, on l'a vu avec ce début de saison, tout le monde est vraiment très motivé et ça marche bien. Donc, on espère que ça va continuer comme ça.
Il y a eu beaucoup de victoires. On va en voir quelques-unes avec la victoire de Nairo Quintana, notamment sur la dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il a remporté le classement général de la Provence, cette étape-là. Je sais que c'est très ciblé. C'est-à-dire que Yvan Le Danois et les patrons de l'équipe, ils disent, tiens, on va mettre celui-là. On voit que Hugo Hofstetter va chercher pas mal de points. Il tourne autour, hein, depuis quelques jours, deuxième, troisième. Est-ce que toi, on t'a déjà ciblé un podium potentiel après Paris-Nice? Est-ce qu'on t'a dit, voilà, ce jour-là, ça sera pour toi, concentre-toi, prépare-toi pour cette course?
Bon, moi, je n'ai pas vraiment un objectif précis. Après, c'est sûr que je peux jouer ma carte sur quelques courses comme j'ai pu faire depuis le début de saison pour aller chercher quelques points, mais je n'ai pas vraiment d'objectif précis. Après, pour le classement UCI, les courses d'un jour sont très importantes et les grosses classiques, il y a énormément de points à marquer. Donc,
aller chercher des top 10 sur un Liège, aller chercher des top 10 sur un Paris-Roubaix,
bah, sur un Liège, pour moi, ça va être un peu dur, je pense. Ouais. Ça grimpe un peu trop, ouais, mais... Sur un Paris-Roubaix, dans une très bonne journée, avec la chance, pourquoi pas. Sur une classique, on peut toujours y croire. Donc, c'est plus dans ce rôle-là. Ouais.
Sur le Het, on voit t'échapper. Tu restes en chasse-patate, hein, derrière le premier groupe pendant un moment. Derrière, tu tombes. Tu arrives à terminer 14e. Et d'après ce que je sais, tu étais colère. C'est-à-dire que tu es rentré à la voiture, tu étais vraiment colère parce que tu sentais les jambes et il y avait beaucoup mieux à faire sur le Het Newsblad.
Ouais, j'étais un peu mitigé après cette course parce que bah, j'étais sorti en contre, après je tombe, bon bah c'est comme ça, j'ai glissé et ensuite je me suis dit que ma course était un peu terminée et puis finalement je me suis accroché, j'ai réussi à suivre les meilleurs dans les monts finaux, donc je me disais que je pouvais aller chercher un beau résultat parce que je suis assez rapide au sprint et malheureusement j'ai complètement manqué mon sprint. J'ai fait vraiment n'importe quoi dans le final et bah, j'étais en passant la ligne, j'étais vraiment déçu de moi pour l'équipe. Et bon, après j'ai relativisé un peu, je me suis dit que j'avais quand même réussi à suivre des grands noms du cyclisme dans le final et qu'il fallait garder ce côté-là et passer à autre chose rapidement.
Margaret Potier, tu connais, parce qu'elle vient de nous dire la famille est avec toi, vous pouvez envoyer vos questions. Alors tout le monde écoute, il n'y a pas beaucoup de questions, on va passer déjà à la dernière partie de Bistro Vélo. Tu as vu, ça passe à la vitesse d'un sprint, mais vraiment dans les 500 derniers mètres. On a appelé ça Veni Vidi Poggi, eh oui, on va parler de Tadej Pogacar dans cette dernière partie, mais on va d'abord vous montrer cette image. Je ne sais pas si tu l'as vue. Est-ce que tu as vu l'image d'un arc-en-ciel qui fait un soleil? Cette chute incroyable de Julian Alaphilippe. Vous êtes des fous. Vous vous rendez compte des risques que vous prenez en course?
Il vaut mieux pas s'en rendre compte. Si on commence à réfléchir à ça, on touche au frein tout de suite et la course est perdue. Il faut pas penser à ça, il faut pas regarder la vitesse à laquelle on va, parce que sinon c'est sûr que là on s'envoie des ondes négatives et après c'est fini. Mais c'est sûr qu'après, quand on regarde les images le soir de la course ou le lendemain, on se dit là c'était quand même tendu, mais faut pas y penser sur le vélo.
Il y avait des copains juste derrière, tu en as eu certains, et c'était une journée complètement folle. En plus là c'est un coup de vent, hein, qui a balancé tout le monde sur ces graviers blancs.
Ouais, c'était impressionnant. On a vu Clément Rousseau qui a évité la chute de très peu. Après, c'est un équilibriste, donc pour lui, ça va. Mais oui, c'était vraiment, vraiment impressionnant.
Un petit peu le même profil que toi, hein. D'ailleurs, Clément, vous devez souvent frotter sur les mêmes courses ensemble. Et puis, la victoire de Tadej Pogacar, on l'avait quitté vainqueur du Tour de Lombardie, hein, sa dernière classique l'année dernière. Là, il remet le couvert. L'année dernière, il avait gagné le Tour, Liège et le Lombardie. Et là, l'Estrade Bianche pour la première fois. Quand il a coupé la ligne, moi, j'ai dit, c'est le nouveau Eddy Merckx. À l'époque d'Eddy Merckx, les coureurs faisaient les courses en regardant où était Eddy. Alors, il est là, j'y vais pas. Ça commence à parler un petit peu comme ça de Pogacar dans le peloton. Parce qu'il y a Evenepoel qui arrive, il y a Van Aert, il y a Van Der Poel qui va revenir. Toi qui aimes les courses d'une journée en plus.
Je pense pas que on se dit, il est là, je vais pas aller sur cette course, parce qu'on est des compétiteurs et on veut essayer de battre tout le monde. Mais c'est sûr que c'est un ogre et il est vraiment impressionnant sur tout type de terrain. Et il progresse encore d'année en année, donc c'est vraiment un très grand champion et je pense qu'il va encore nous embêter pas mal d'années.
Si tu devais lui prendre une qualité, ce serait laquelle?
Je sais pas, il est hyper complet, il grimpe super bien, il va vite au chrono, il va vite au sprint. C'est très très compliqué de réussir à le battre.
Bruno, qui voudrait connaître tes autres passions à part le vélo dans la vie?
Le sport en général, j'ai pas vraiment d'autres passions. Je suis vraiment un sportif et j'aime tout type de sport, le sport en général.
Jean, moi j'aime tous les sports sauf, moins les sports méca. C'est un truc qui me... J'adore le patin artistique, tu vois, je peux pleurer, mais les sports méca, toi, les sports aussi, le truc que tu rattrapes pas à la télé, sur Eurosport, bien sûr.
La Formule 1.
Ah, la Formule 1, c'était sur Eurosport, c'est chez nos copains de Canal. T'es très bien sport méca.
Moi, j'aime bien aussi, j'aime bien tout type de sport, hein, la course à pied, le rugby, un peu moins le foot, mais...
Bah, il n'y a pas d'équipe en Normandie.
Il y a une équipe, mais...
Pas Quevilly, voilà, ça va. Il y a Caen aussi, mais bon, Caen et Quevilly, c'est compliqué en ce moment. Je taquine, bien entendu. Mathis, la relève du cyclisme normand, nous dit Nicolas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Charles nous dit, il parle bien le petit Mathis. Il a déjà tout d'un grand. Alors, petite image quand même, Philippe Ogana. Lui aussi, c'est pas un manche. Hein. Philippe Ogana qui s'est imposé aujourd'hui. Il devance Remco Evenepoel et... Tadej Pogacar sur la première étape de Tirreno-Adriatico. Ça, c'est à suivre tous les jours en compagnie de Louis-Pierre Frileux et de Steve Chenel. Et là-bas, il y a qui? Il y a Wawa, il y a Thibaut Guernalec. Mais pour tout te dire, on voulait te montrer une image de Thibaut. Thibaut, il est parti à 16h44. Et en course, il y avait Ganna et Evenepoel. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Par contre, il y a Warren qui voulait te parler. On l'écoute.
Salut à tous, c'est Warren Barguil. Du coup, une petite anecdote sur mon petit Mathis Louvel. Donc, c'est quelqu'un de très très timide. Très très timide. Il est timide, très poli. Franchement, c'est un grand plaisir de courir avec lui. Il a jamais un mot plus haut que l'autre. Il est très intéressant comme coureur, très à l'écoute. Et je sais pas pour blâmer la nouvelle génération, mais je trouve que c'est bien d'avoir un jeune comme ça qui écoute les anciens, parce que je commence à me faire aussi un peu plus vieux. Et je suis vraiment content de courir avec un coureur comme ça. C'est un super coureur qui lâche rien jusqu'à l'arrivée. Et c'est aussi quelqu'un qui peut s'avérer timide toute l'année. Puis quand on arrive au stage de l'hiver, qui sait faire la fête avec ses collègues. Et du coup, c'est vraiment un super mec. Et pour la petite question pour Mathis, je voulais savoir si tu préférais le kebab en bas de chez toi ou les gaufres en bas de chez toi.
Il n'en rate pas une. Alors, je vais essayer de résumer. Alors, timide, poli, très à l'écoute des anciens. Il y a une histoire aussi en stage. Apparemment, tu as mis un peu l'ambiance. Puis la dernière question, plutôt le kebab en bas de chez toi ou plutôt les gaufres en bas de chez toi? Il t'a bien résumé, timide, poli, très à l'écoute des anciens.
C'est un peu ça, oui. Je suis quelqu'un d'assez respectueux. J'ai été toujours éduqué vers ça. Donc, je pense que c'est très important d'écouter les gars d'expérience dans l'équipe. Et j'ai toujours été bien entouré. Donc, je prends tous les conseils pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire par le passé, pour essayer de progresser plus vite. Voilà.
C'est quoi cette histoire de stage où tu te serais un petit peu lâché, justement? Tu as enlevé le gilet, la timidité. Qu'est-ce que tu nous as fait dans ce stage hivernal?
Oh, bah, les stages hivernaux, un peu de cohésion, parfois une bière ou deux, et je me désinhibe un peu comme tout le monde.
Ouais, surtout quand on est bien affûté, même en début de saison, quand on n'a pas l'habitude. C'est qui le mec à pas suivre en soirée chez Arkéa Samsic, à part Emmanuel Hubert?
Warren est pas mal. Hein.
Ah, Warren?
Oui.
Ah bon. Et alors, gaufre ou kebab en bas de chez toi à Liège?
Ah, je suis plutôt gaufre, hein, mais j'essaie de pas trop y aller quand même.
Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que la gaufre et le kebab, c'est quand on veut être coureur cycliste, ça fait pas super bon ménage, c'est ça l'idée, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis en Belgique, les tentations sont nombreuses, donc il faut faire attention.
À qui te dis-tu? La dernière fois qu'on y est allé avec Jackie Durand, imagine, les bières belges, Jackie. Je te suis, hein, Jackie. Hein. Il m'a dit, lui, c'est pareil, hein, c'est un Flandrin. Hein. Il y a plein de choses. On a déjà fait une demi-heure. On va devoir se quitter, bien sûr. On pourrait écouter ça facile sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur Eurosport.fr, sur nos applications, sur le Facebook. Il y en a pas mal qui nous disent, je crois qu'on a un champion. Pas parce qu'ils t'ont écouté, parce qu'ils te suivent. En tout cas, on était ravis, Mathis, de te recevoir. On va remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer tout ça. Il y a Hervé Bonbrun qui ne doit pas être là. Lui, il est à Tirreno. Et puis, il doit avoir Fred Machabert juste à côté de toi. Un grand merci à toute l'équipe Arkéa Samsic. On se retrouve lundi pour un nouveau Bistro Vélo. Et moi, je remercie Sébastien Petit qui est derrière là-bas et qui gère tout. Un grand merci, Mathis Louvel. On te suit demain sur Paris-Nice, bien entendu. Ce sera en direct à 14h15. Salut, Mathis.
Merci à vous. Au revoir.
Salut.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.